France Inter.
Beaucoup de femmes, pas mal d'enfants, des hommes aussi parfois.
Le 18-20, François Geffrier.
Les Ukrainiens réfugiés en Europe en urgence au départ aujourd'hui. Leur présence, notamment en Pologne, en Allemagne, en Roumanie, fait débat. Les deux invités d'Un jour dans le monde vont nous éclairer dans un instant. Le Japon appuie sur le bouton du nucléaire près de 15 ans après Fukushima. C'est le monde à l'endroit avec Louise Baudet. Le reportage dans un pays qui compte déjà 66 compagnies aériennes, 249 aéroports, mais où 1 milliard de personnes n'ont encore jamais pris l'avion. La Chine voit son ciel se remplir de façon exponentielle.
Aujourd'hui, notre compagnie aérienne transporte 25 millions de passagers par an. Et dans 5 ans, on estime que nous en transporterons plus de 100 millions par an. À partir de maintenant, nous allons acheter environ 10 avions par an.
Sébastien Berriot nous emmène à la rencontre de cette classe moyenne chinoise qui a soif d'altitude. Ensuite, cette semaine, c'est Alice Moreno qui regarde sous les radars. Et puis la BO du monde, Cyril Sauvageau, rime avec Urbano Latino. C'est le géant du genre, le portoricain Bad Bunny, le type de musicien politique qui affole les compteurs des plateformes musicales autant que l'univers MAGA qui le déteste. Comme le dit Fabienne Sintès, le monde est vaste et on n'a pas une heure, alors on embarque.
C'est littéralement par une sortie de secours que l'accueil des Ukrainiens réfugiés en France se fait ici à Nice.
Je viens de Brovary, à côté de Kiev. Je suis vraiment soulagée. J'espère maintenant pouvoir travailler ou reprendre mes études. Et je remercie tout le monde pour l'accueil.
Dans cette seule préfecture des Alpes-Maritimes, on a délivré près d'un quart des autorisations provisoires de séjour déjà accordées aux Ukrainiens par la France. Mais désormais, on est au bord de la saturation.
Nous sommes à la fin de l'hiver 2022, des files d'attente se forment chaque jour devant un hall du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, mais aussi à Strasbourg, à Lille ou encore à Nice. On l'entendait dans ce reportage de Public Sénat de l'époque. Des centaines de familles ukrainiennes parties en catastrophe de leur pays viennent obtenir des informations sur l'administratif, les hébergements, les éventuelles aides que peut leur proposer la France. Cet accueil, comme une évidence, c'était à l'époque, avant l'usure du temps, le zapping de l'actualité, la crise politique aussi. Près de 4 ans après, que sont-ils devenus ces Ukrainiens? Car c'est bien d'eux dont on parle ce soir dans Un jour dans le monde. Et même avec l'une d'elles. Bonsoir Yulia.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes arrivée dans la région de Lyon, précisément, en mai 2022. Racontez-nous cette arrivée en France à cette époque. Comment ça s'est fait très concrètement? Comment vous avez été accueillie, prise en charge?
Voilà, c'était comme ça. Donc, au début de la guerre, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, j'étais en vacances à Zanzibar. Et après, car l'avion arrêtait de marcher, c'était pas possible de revenir à la maison, chez moi. J'ai eu quelques amis à Lyon. Ils m'ont vu dans le vidéo. J'étais vraiment... Pas très énergique et tout ça. Donc, l'avion m'a dit que viens juste pour se reposer un peu. Et voilà, 3 ans et demi après, je suis toujours à Lyon.
Il y a eu plusieurs déménagements dans cette histoire de 3 ans et demi de votre parcours en France, hébergé, je crois, pendant un an chez ses amis lyonnais. Puis, vous avez réussi à trouver un logement d'abord. Le travail, ça n'a pas été simple, notamment à cause de la barrière de la langue. Quel était votre métier?
Mon métier, je suis dans le domaine d'informatique. J'étais le chef de projet. C'est vrai que je fais quelques petits boulots, mais à cause de la langue, c'était pas très agréable. Mais maintenant, j'ai pris plusieurs formations de la langue française. Je parlais pas du tout, zéro, quand je suis arrivée. Et après quelques formations professionnelles, finalement, je commençais à travailler.
Et donc, on l'entend ce soir, vous êtes capable de répondre à une interview en français en direct à la radio, preuve que vous avez largement appris. Et je crois que vous commencez d'ailleurs un travail enfin dans quelques jours, quelques semaines, en janvier.
Ouais, c'est ça.
Quel genre d'entreprise? C'est toujours sur votre métier, celui d'informaticienne?
Oui, c'est dans mon domaine. J'ai pris la formation par rapport le CRM. Donc, ouais,
le CRM, c'est la relation client en lien effectivement avec les plateformes informatiques. Est-ce que vous voyez, Yulia, rester ici, rester en France, dans la région lyonnaise, ou est-ce que votre désir, c'est le plus vite possible de rentrer en Ukraine?
Bien sûr que je voudrais revenir chez moi à l'Ukraine, mais je pense pas que c'est trop réaliste pour l'instant, quand c'est toujours dangereux à Kiev. Voilà, pour l'instant, je reste ici. Nous avons créé l'association Ukraine, on aide beaucoup, fait beaucoup de travail social, culturel, tout ça. Donc, pour l'instant, j'ai des activités ici à Lyon.
Ce qui vous permet aussi de garder le contact avec des Ukrainiens en France, puisque j'imagine qu'une partie de vos proches, peut-être de votre famille, de vos amis, sont restés à Kiev et dans sa région, en Ukraine.
Ouais, voilà, le réseau ukrainien est très agréable à Lyon, donc je pense que, ouais, pour l'instant, j'y reste.
On est dans ce qu'on appelle la période des fêtes. Dans trois jours, c'est Noël en France. Vous vous apprêtez à la passer pour la troisième fois en France, dans la région de Lyon. Comment vous vivez cette période? Est-ce qu'on a le cœur serré, justement, en pensant à votre pays, à vos traditions de Noël? L'esprit curieux, au contraire, encore amusé de ce que vous voyez de la France à cette occasion-là?
Bien sûr que c'est triste pas être avec la famille pendant ces périodes, mais après, pour ça, nous avons les réseaux, les amis ukrainiens ici. Normalement, on prépare le repas traditionnel, chante les chansons traditionnelles, voilà.
Votre témoignage, merci beaucoup, celui d'une Ukrainienne en France, donc depuis 2022, le printemps 2022. Merci beaucoup, Yulia, d'avoir été en direct ce soir avec nous sur France Inter. Alors voilà, les réfugiés ukrainiens et l'Union européenne face à une urgence qui dure. Eh bien, ça, c'est le titre d'une étude de la Fondation Jean Jaurès et son auteur est avec nous dans Un jour dans le monde sur France Inter. Bonsoir Théo Verdier.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes co-directeur de l'Observatoire Europe de la Fondation Jean Jaurès. On vient d'en parler avec Yulia, ce sentiment partagé de la reconnaissance, une situation qui s'est peu à peu stabilisée, mais la barrière de la langue qui est dure quand on est ukrainien, et à la fois l'interrogation sur un éventuel retour. Est-ce que c'est représentatif de la situation de beaucoup d'Ukrainiens arrivés en Europe il y a 3 ans et demi, 4 ans ?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs spécificités à cette vague migratoire. Premièrement, elle est massive. C'est aujourd'hui 4,2 millions d'Ukrainiens qui sont accueillis en Europe. Et en France, on en accueille assez peu, hein, autour de 50 000. Il faut savoir qu'en Allemagne, on est au-dessus du million, en Pologne, juste en dessous. Donc, on a des communautés importantes. C'est une immigration qui est spécifique parce qu'elle s'est faite immédiatement sur un statut légal, celui de la protection temporaire, qui est similaire à l'asile, en tout cas en termes de possibilités. Et effectivement, avec une population qui était très diplômée. En Allemagne, c'est 70% des réfugiés ukrainiens qui sont diplômés du supérieur. En Pologne, 40%. Mais beaucoup d'entre eux, je reprends l'exemple polonais, font aujourd'hui un travail qui n'est pas au niveau de qualification qu'ils avaient avant la guerre. Et donc, cette situation-là, avec notamment la barrière de la langue et la question de la garde des enfants, puisque 7 personnes sur 10 réfugiées ukrainiennes sont des femmes et ou des femmes avec enfants, des femmes seules ou des femmes avec enfants. Donc c'est les deux barrières principales.
Des familles monoparentales, en tout cas pour ce qui est pour ce une grande partie, oui. En France ou en Europe. Pourquoi ces pays-là, vous le disiez, la France, 55 000 réfugiés ukrainiens, c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais quand on les met en regard du 1 200 000 Ukrainiens accueillis par l'Allemagne, ça veut dire qu'il y a quelque chose comme 20 fois plus de réfugiés, même 60 fois plus, 30 fois plus de réfugiés ukrainiens en Allemagne. Comment se fait-il que les réfugiés soient allés si manifestement en Allemagne, en Pologne aussi, et beaucoup moins en France ?
Il y a eu deux vagues. Hein. D'abord, et on le voit bien dans les études, même sur d'autres vagues migratoires, le premier mouvement, il est de se concentrer d'abord pour se mettre à l'abri. Donc c'est dans tous les pays frontaliers, et ça c'était le premier mouvement de l'Ukraine. Et ensuite, il y a une pérennisation de l'accueil qui se fait en fonction de 3 critères. Les opportunités professionnelles, et donc c'est les centres urbains. La diaspora, et donc Pologne, Allemagne, mais aussi éventuellement Espagne, Italie. C'était des endroits où on avait des diasporas ukrainiennes fortes et nombreuses, et c'était beaucoup moins le cas en France. Et enfin, une espèce de stratégie professionnelle et financière personnelle, où on a, et c'est logique, une sorte de benchmark des aides et des modèles d'intégration qui ont été faits par les différents réfugiés et qui sont allés se positionner dans un pays ou un autre. Et donc en Allemagne notamment, on a un processus d'intégration qui est plus fort. C'est presque 1 milliard par an qui consacre aux cours de langue et au travail d'intégration.
Donc il y a quand même aussi l'impact des politiques publiques, des choix qui ont été faits à cette époque-là, l'hiver 2022, le printemps 2022, par les dirigeants politiques des différents pays.
Tout à fait, et là-dessus, il faut dire que l'Union européenne s'est quand même honorée, puisqu'on a accordé à 4 millions d'Ukrainiens une protection temporaire qui, on va dire, est une sorte d'asile automatique ou d'asile rapide qui permet rapidement de travailler avec un statut légal qui donne droit à un certain nombre d'aides, qui est aussi associé à des dispositifs de logement. Et donc là-dessus, on s'est plutôt honoré. Il y a un sujet de fierté dans cette histoire, c'est le bon accueil qu'on a fait aux réfugiés ukrainiens, même si le soutien populaire et donc politique, est en forte décroissance et il faut y faire attention.
Précisément, l'Europe, les Européens, les habitants et donc les voisins de palier de ces Ukrainiens réfugiés dans l'Union Européenne, ils se positionnent comment? Vous disiez, le sentiment baisse, on le mesure par quel type de faits ou d'études?
Tout simplement, si on prend une série de sondages qui sont faits sur des questions sur l'aide aux réfugiés ukrainiens spécifiquement, on avait une unanimité européenne en 2022-2023, 8 Européens sur 10 y étaient favorables. Aujourd'hui, ces indicateurs ils chutent, on a perdu quasiment 30 points en quelques années. Et aujourd'hui, il y a quasiment un Polonais sur 2 qui se déclare défavorable à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il y a 4 Polonais sur 10 qui disent considérer les Ukrainiens comme une menace. Et en fait, politiquement, en Pologne, toutes les semaines, on a une polémique, un sujet sur l'accueil des réfugiés ukrainiens et leur intégration. Donc c'est un vrai sujet politique qu'il faut traiter tel quel.
Qu'est-ce qui s'est passé en Pologne comme ailleurs? Qu'est-ce qui a basculé pour faire changer ce sentiment?
Il y a trois choses. Un, vous l'avez dit, il y a une urgence qui dure. C'est-à-dire qu'évidemment, on est tous d'accord sur la responsabilité et la faute de la Russie dans cette histoire, et la faute initiale. Et donc, il y avait un mouvement de solidarité pour l'Ukraine, mais ensuite, il y a évidemment une espèce de fatigue qui s'installe dans le temps. Deuxièmement, il y a un aspect massif. Je veux dire, imaginez qu'en Tchéquie, c'est qu'il y a plus de 3,5% de la population en équivalent qui sont accueillis. Oui. Et donc, c'est des charges, c'est des milliards qu'il faut mettre sur la table. Et donc, il y a une charge d'accueil qui est inégale entre les pays européens. Et un dernier sujet, c'est que le sujet migratoire en ce moment, c'est pas le sujet le plus populaire dans le débat politique européen. Et donc, il rejoint finalement une discussion générale sur la question migratoire qu'on avait et qu'on a depuis une dizaine d'années.
Ça se traduit comment, le fait que cette opinion publique elle soit en train de basculer en voyant majoritairement dans beaucoup de pays les Ukrainiens comme une éventuelle même menace? Ça se traduit concrètement comment pour les réfugiés ukrainiens eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont à subir une forme d'antipathie?
Vos auditeurs pourront approfondir, il y a un papier du Guardian en Pologne qui a été publié aujourd'hui sur le même sujet, qui montre bien qu'au quotidien, il y a une forme de violence, de racisme qui est en train de se déployer, qui peut être pour certains dans le rapport aux réfugiés un retour à la normale, ou en tout cas il y a une hostilité aux réfugiés ukrainiens qui est en train de se déployer dans la population, mais ça c'est plus difficile à quantifier, mais dans le débat public, et c'est pareil quand on regarde l'élection présidentielle en Roumanie, en Pologne, ou même les débats qu'ont eu la coalition allemande au pouvoir cet été, on a des propos qui sont d'une certaine violence vis-à-vis des mesures d'accueil, et donc on a quitté le champ lexical de la solidarité pour arriver à plutôt celui progressivement de l'hostilité, et ça, c'est une vraie difficulté pour l'Union parce qu'on a posé un acte de solidarité, c'est la protection temporaire. On a dit on va accueillir le temps que ça dure les réfugiés ukrainiens. Cette protection, elle finit en 2027. Est-ce qu'on est politiquement capable de la reconduire ou d'aller vers un processus pérennisé d'insertion dans la société européenne? Ça, c'est le défi qui nous est posé puisque même s'il y avait un accord de paix, on estime qu'il y a 1 à 1,5 million de réfugiés ukrainiens qui voudraient s'installer dans l'Union ou rester de manière durable.
Oui.
Et ça, c'est le défi qui est posé.
Parce qu'il y a eu aussi une part d'intégration. Et d'ailleurs, je reviens à ce que vous disiez sur le fait que socialement, ou plutôt professionnellement, les Ukrainiens réfugiés en Europe, qui sont donc 4 200 000, qui sont arrivés depuis 3 ans et demi, 4 ans, ils occupent souvent des métiers qui sont inférieurs ou des emplois, des postes qui sont inférieurs à ceux qu'ils pouvaient occuper en Ukraine. C'est un petit peu le témoignage aussi que nous donnait tout à l'heure Yulia, qui nous disait « Je suis informaticienne ». On sait que l'informatique aujourd'hui en France est un métier qui recrute, qui voudrait bien avoir des bras en plus, même à la limite quand on ne parle pas français. Quels sont les métiers qu'occupent ces Ukrainiens? Est-ce qu'il y a, alors peut-être pas en France où ils ne sont que 55 000, mais en Allemagne ou en Pologne, des médecins, des cadres dans la finance, dans le monde de l'industrie?
Tout à fait, il y a beaucoup de diplômés du supérieur, je le disais, aussi de professions qui se recrutent à Bac plus 5 ou dans des professions de cadre. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est effectivement il y a des modèles d'insertion qui sont différents et l'insertion au niveau de qualification que vous occupiez avant de partir, c'est un processus qui est particulièrement chronophage, qui prend du temps à la fois en langue et en insertion dans le milieu professionnel. Donc en Allemagne, le taux d'emploi des Ukrainiens est très faible parce qu'il y a ce choix dans la durée. En fait, il y a un tiers des Ukrainiens qui pourraient travailler aujourd'hui en Allemagne qui sont insérés professionnellement, alors qu'en Pologne, ça dépasse le taux d'emploi national, c'est quasiment 7 sur 10. Donc on le voit bien, il y a des stratégies nationales qui sont différentes, et notamment la principale barrière, c'est, je le disais, la garde d'enfants et la langue.
Oui, et vous parlez de l'Allemagne, c'est d'autant plus frappant que l'Allemagne se montre ou s'est montrée généreuse avec les réfugiés ukrainiens. Elle l'avait déjà été pour les réfugiés syriens il y a 10 ans. Elle a accueilli deux vagues de réfugiés et de migrants venant il y a 10 ans de Syrie et venant il y a 4 ans d'Ukraine. Et elle a su en partie faire face. C'est le fameux Wir schaffen das d'Angela Merkel. Il y a 10 ans, nous allons le réussir.
Tout à fait. Et la question, c'est politiquement combien de temps ça pourra tenir ? L'Union a décidé de la protection temporaire, mais à grand pouvoir, à grande responsabilité, on ne peut pas laisser les
Toi,
États...
Toi, c'est Spider-Man.
Exactement. Et bien, ça vaut pour l'Union, puisqu'on ne peut pas laisser les États les plus mobilisés avoir cette charge seule dans la durée, puisqu'on sait qu'au moins jusqu'en 2028, cette question, elle va se poser de manière massive. Donc, on va, cette année, devoir renouveler la protection temporaire et on va avoir la mise en place du pacte asile et migration qui exige de certains États des contributions à l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés dans l'Union. Et donc moi, je peux vous dire que ça va être à l'agenda politique du débat européen. Et en France, on en parle très peu. C'est normal parce qu'il y a peu de réfugiés ukrainiens. Mais je crois que c'est un sujet auquel on doit être vigilant, cette chute du soutien public européen à la question de l'accueil des réfugiés.
Théo Verdier, merci beaucoup, co-directeur de l'Observatoire Europe de la Fondation Jean Jaurès. Je renvoie à cette étude que vous avez publiée il y a quelques jours. Merci d'avoir été sur France Inter en direct. La suite d'Un jour dans le monde. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir.
Vous allez remettre le monde à l'endroit.
La catastrophe de Fukushima, rappelez-vous, c'était il y a 15 ans. Et bien 15 ans après, le Japon relance l'activité de la plus grande centrale nucléaire au monde.
D'abord, c'est ce titre de Soul américaine qui nous accompagne, Curtis Harding qui est sur France Inter. On écoute The Power, excellent de fin de journée.
Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just be your
Curtis Harding, The Power, titre sorti en 2025, et Curtis Harding qui sera à l'affiche des Eurocaines de Belfort. Ce sera début juillet prochain.
How dare you?
World has changed.
Le 18-20. François Geffrier.
Le monde à l'endroit, vous nous expliquez, Louise Baudet, pourquoi le Japon relance l'activité de la plus grande centrale nucléaire au monde.
Eh oui, bienvenue à Kashiwazaki, Kariwa, 220 km au nord-ouest de Tokyo, 400 hectares en bord de mer, gigantesque complexe nucléaire. La plus grande centrale au monde, à l'arrêt depuis 15 ans, et la catastrophe de Fukushima. 18 000 morts, un traumatisme national et mondial, tous les réacteurs japonais sont alors fermés. 14 ont depuis rouvert, et si ce redémarrage-là est particulièrement commenté, c'est parce qu'il concerne une centrale exploitée par TEPCO, le gestionnaire de la centrale de Fukushima, et ça c'est une première.
Une première qui n'est pas vraiment du goût de la population locale.
Effectivement, 6 habitants sur 10 s'opposaient à cette réouverture, mais les autorités locales ont passé outre la réactivation de la centrale. Ce sont de nouveaux emplois, des factures d'électricité qui vont baisser, et la garantie que la capitale Tokyo ne sera pas à court d'électricité, alors que les centrales thermiques qui alimentent la mégapole doivent fermer l'été prochain. Le Japon veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Il est un pays pauvre en ressources qui veut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Le charbon et le GNL importés représentent les 2/3 de sa production d'électricité. Et même si sa population diminue, le Japon ne fait pas d'enfants, et bien sa consommation va augmenter avec les besoins de l'intelligence artificielle.
Le retour à l'atome, il est vu comme une nécessité.
Oui, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi soutient le redémarrage des centrales nucléaires engagées par ses prédécesseurs au nom de la sécurité énergétique du pays, dans un climat de tension géopolitique qui pourrait compromettre ses sources d'approvisionnement. 15 ans après la catastrophe, la promesse de sortie du nucléaire est donc oubliée. Et il n'y a pas que le Japon qui est concerné. Avant Fukushima, eh bien, il y a eu Tchernobyl en Ukraine, alors soviétique. C'était il y a bientôt 40 ans. Des traumatismes mondiaux qui s'estompent à mesure que sonne le réveil du nucléaire, vu partout sur la planète, y compris en Europe, comme une source d'électricité bas carbone, donc utile pour lutter contre le dérèglement climatique.
Le Japon relance son nucléaire civil, mais pas seulement, et ça c'est plus étonnant.
Oui, Hiroshima, Nagasaki, 6 et 9 août 45, la Seconde Guerre mondiale qui s'achève dans le feu atomique, plus de 210 000 morts, et pourtant le tabou du nucléaire militaire vacille au Japon. La semaine dernière, une petite phrase d'un des plus proches conseillers de la première ministre a fait scandale. Propos off, tenu devant la presse, l'archipel doit posséder des armes nucléaires. Rupture majeure pour le Japon qui jusqu'ici respectait trois principes. Ne pas posséder, produire ni autoriser la présence d'armes nucléaires américaines, par exemple, sur son territoire. Cet interdit, la première ministre ultranationaliste n'exclut pas de le revoir sous la pression de l'extrême droite japonaise qui milite pour la sortie du traité de non-prolifération, traité signé et ratifié par Tokyo.
Le pacifisme japonais aurait-il vécu ?
Alors la population reste majoritairement opposée au nucléaire militaire, mais l'idée que des ogives américaines soient entreposées sur le sol japonais, cette idée-là, elle fait son chemin. Dans un pays qui se remilitarise à grande vitesse face à la menace nord-coréenne, chinoise et russe, Tokyo a doublé son budget de la défense et transformé sa doctrine militaire jusqu'à la nucléariser. Alors on n'en est pas encore là, mais les survivants japonais de la bombe atomique craignent le pire. Ces Hibakusha, comme on les appelle, qui ont reçu le prix Nobel de la paix l'an dernier, ils luttent pour un monde sans armes nucléaires, porteur d'une mémoire de plus en plus anachronique au vu de la course aux armements dans laquelle la Terre entière, Japon compris, est engagée.
Louise Baudet pour Le Monde à l'endroit avec le Japon qui rouvre ses centrales nucléaires. Merci Louise. Cela fait partie de ces secteurs où on s'attend à un effet rouleau compresseur de la Chine. D'ici 10 ans, elle devrait être la première puissance mondiale dans l'aviation civile, ce qui signifie dépasser les États-Unis. Le Covid n'a fait que retarder un développement exponentiel. Construction de nouveaux aéroports, achat d'avions par milliers. D'ailleurs, il n'y a pas assez de pilotes pour répondre à la demande. Le boom de l'aérien intérieur en Chine, c'est un reportage de notre correspondant Sébastien Berriot.
Au nord-ouest de la Chine, le Qinghai est l'une des provinces les plus pauvres du pays.
Beaucoup d'habitants ici n'ont pas encore bénéficié de l'incroyable développement que connaît la Chine. Duojia, par exemple, 24 ans, qui travaille comme livreur à Xining, la capitale de région, espère un jour pouvoir prendre l'avion pour la première fois.
J'ai déjà voyagé en dehors de ma province, mais je n'ai jamais imaginé l'avion parce que c'est cher. Mon choix jusqu'ici s'est porté sur le train. Je prendrai certainement l'avion à l'avenir quand j'aurai suffisamment d'argent. Peut-être quand j'irai travailler à Pékin.
Comme Duojia, ils sont plus d'un milliard de Chinois à n'être encore jamais montés dans un avion. Aucun autre pays au monde ne dispose d'un tel vivier. Un milliard de voyageurs potentiels. Les 66 compagnies chinoises s'y préparent depuis longtemps. Nous sommes maintenant à l'aéroport Hongqiao de Shanghai, dans la salle de contrôle de Spring Airlines. Cette compagnie low-cost privée illustre la vitalité de l'aviation civile à l'intérieur de la Chine. Zhang Wan est le fondateur et PDG.
Aujourd'hui, notre compagnie aérienne transporte 25 millions de passagers par an. Et dans 5 ans, on estime que nous en transporterons plus de 100 millions par an. Au départ, nous avions prévu d'avoir 200 avions, mais nous envisageons désormais de monter à 400. À partir de maintenant, nous allons acheter environ 10 avions par an.
L'avion vient compléter le réseau ferroviaire grande vitesse en Chine, déjà très dense, mais qui reste largement insuffisant pour absorber la nouvelle soif de voyage des Chinois. Les compagnies aériennes opèrent tous les jours plus de 4500 lignes régulières. Les avions volent dans tous les sens, entre les grandes métropoles, mais aussi vers de plus petites villes et les provinces les plus reculées. Et comme ici à bord de cet Airbus d'Air China qui relie Pékin à Wuhan, les vols sont presque toujours quasiment complets. Il est très rare en Chine d'avoir des places libres dans un avion. Mais problème, il n'y a pas assez de pilotes. Les quelques 61 000 aujourd'hui en service en Chine n'arrivent pas à satisfaire la demande. Alors Spring Airlines tente de séduire les pilotes étrangers comme Paolo, un Finlandais qui a été recruté à Shanghai. Et il se dit très impressionné tous les jours en survolant le territoire chinois.
On croyait que le Covid allait mettre un terme à tout ça, mais après l'épidémie, on a assisté à une incroyable reprise. Je le constate à chaque fois que je vole. Je vois de nouveaux aéroports, de nouveaux terminaux, de nouvelles pistes. Par exemple, dans la ville de Lanzhou, avant le Covid, on parlait d'un projet de nouvel aéroport. Il n'y avait presque rien, et 3 ans plus tard, on a un aéroport avec 2 pistes de taille équivalente à ce qu'on peut avoir en Europe.
La Chine dispose aujourd'hui de 249 aéroports, deuxième rang là aussi derrière les États-Unis. Un développement qui s'est heurté effectivement au Covid, par exemple à l'aéroport de Daxing à Pékin, surnommé le Roissy chinois, qui avait ouvert ses portes juste avant l'épidémie. Aujourd'hui, l'énorme site est encore sous-utilisé. On voit une partie des installations à moitié vide, mais cela ne freine pas la démesure à la chinoise, pas vraiment en adéquation avec les ambitions climatiques du pays. Illustration à quelques centaines de kilomètres de Pékin, l'aéroport de Dalian, près de la Corée du Nord. Là, on est en train de décoller de Dalian, mais d'ici quelques années, cet aéroport n'existera plus et sera remplacé par un tout nouveau installé sur une île artificielle qui est en cours de construction. Le chantier est monumental. Ce sera l'aéroport insulaire le plus important au monde. La Chine veut faire de Dalian un hub aérien en Asie avec une capacité de 80 millions de passagers par an.
Sébastien Berriot et son reportage, le boom de l'aérien intérieur en Chine. 18h45, la suite d'un jour dans le monde, sous les radars avec vous Alice Moreno.
Et nous irons à Damas où le gouvernement syrien a diffusé une carte du pays sans le territoire stratégique du Golan revendiqué par Israël.
Et la musique, la BO du monde, Cyril Sauvageau.
On reviendra sur la folle année de Bad Bunny, la star du reggaeton, devenu l'artiste le plus écouté au monde en 2025.
Cyril et Alice, à tout de suite, le temps d'écouter ce titre qui me fait prendre une grande respiration avant de vous l'envoyer dans les oreilles, car c'est un mot de 25 lettres, vous aurez 4 minutes pour vérifier. Prisen Kaolinen Sinen Chusol, voilà pour la régalade de la prononciation, et c'est signé Adriano Celentano.
Prisen Kaolinen Sinen Chusol.
You the cold maze, say one, Prisen Kaolinen Sinen Chusol. All right. Chills and behind me get a cold. Baby,
never told another dude to go play with the jam. You'd have come and not choose no bite, but not so hope, hope, but just get along to cope enough time. All the difference is stand, light his shoes ago, my man. You could cost you the man to call the radio girls. Oh, Sunday.
Vous avez cru reconnaître de l'anglais, c'est que vous parlez parfaitement le yaourt, puisque cette chanson est assumée comme étant une langue neuve que personne ne comprendra. Au passage, c'était le tout premier rap italien, 1972, pour cette chanson d'Adriano Celentano. Si vous voulez la réécouter, c'est simple, il suffit de taper donc « Prigen Kaolinen Sinain Chusol ». Voici « Sous les radars » avec Alice Moreno.
I also recognize the Israeli sovereignty over the Golan Heights. And that's one they didn't even ask me.
On entend Donald Trump, Alice, le président américain qui se félicite d'avoir reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Il l'avait annoncé déjà en 2019 et l'a réaffirmé il y a quelques jours. Pour lui, le Golan est israélien, alors rien de surprenant quand il s'agit de la position de Trump. Mais ce qui est nouveau, c'est cette carte de la Syrie publiée ce week-end par le ministère des Affaires étrangères syrien lui-même, une carte qui exclut le plateau du Golan. C'est la première fois qu'un document officiel syrien n'inclut pas ce territoire stratégique dans les limites de ses frontières. Pourtant, selon le droit international, le Golan est bien un territoire syrien occupé illégalement par Israël depuis 1967 et la population syrienne tient évidemment à l'intégralité de son territoire. Si cette carte sans le Golan est volontaire et pas une simple erreur, le gouvernement d'Ahmed al-Shara prend des risques pour sa légitimité en interne. Le gouvernement syrien n'a pas explicité sa démarche, mais cette publication intervient dans un contexte de réchauffement des relations diplomatiques entre la Syrie et les États-Unis. Cette carte sans le Golan est d'ailleurs accompagnée d'un message qui célèbre la levée des sanctions américaines qui excluaient la Syrie du système bancaire international et des transactions en dollars. Le Congrès américain a validé mercredi dernier la levée de ces sanctions. La diffusion de cette carte syrienne amputée pourrait bien être un message envoyé par le gouvernement Shara à Israël et aux Américains, un signe de coopération symbolique qui va dans le sens de l'administration de Donald Trump.
There are some unbelievable great things that are happening in Louisiana. And there are some immensely great things.
Et il se passe de grandes choses en Louisiane et de grandes choses aux États-Unis.
C'est le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, qui le dit. Ce grand supporter de Trump vient d'être désigné par le président américain nouvel envoyé spécial pour le Groenland. Il l'a annoncé sur son réseau Truth Social. Jeff Landry comprend à quel point le Groenland est essentiel à notre sécurité nationale, a-t-il écrit. Un poste que le gouverneur américain a immédiatement accepté avec un message extrêmement clair, posté sur X. C'est un honneur de vous servir dans cette démarche déterminée à faire du Groenland une partie des États-Unis. Mais cette nouvelle étape qui confirme la lubie impérialiste de Trump a déjà fait réagir. Le Danemark, dont dépend le Groenland avec un statut de territoire autonome, a convoqué son ambassadeur américain et le ministre des Affaires étrangères danois, Lars Løkke Rasmussen, s'est dit profondément indigné par cette décision américaine. Le Groenland est un territoire hautement stratégique situé entre l'Europe et l'Amérique du Nord, au cœur de l'Arctique. Il est approprié proximité de passages maritimes majeurs, abrite déjà une importante base militaire américaine et dispose aussi de terres rares, ces terres riches en ressources naturelles comme le fer ou l'uranium.
Demos don't know what to do. There's a power outage. San Francisco.
Ils ne savent pas quoi faire, il y a une coupure de courant à San Francisco.
C'est le constat mi-amusé, mi-inquiet que fait un passant américain. Il filme des robots de taxi à l'arrêt. La faute à une panne électrique géante qui a frappé la ville américaine suite à l'incendie d'un poste de distribution ce week-end. 130 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité et les feux tricolores ont cessé de fonctionner dans les rues de San Francisco. Résultat, les véhicules autonomes Waymo, vous savez ces voitures qui se conduisent toutes seules, sont devenus statiques, faute de signalisation. En plus d'être plongée dans le noir, la ville s'est donc retrouvée complètement embouteillée, ses robots taxis figés au carrefour, se transformant en obstacle inamovible. Alors rassurez-vous, si cela a réclamé un peu de patience aux habitants, l'incident n'a pas fait de blessés. Et l'exploitant Waymo, qui prévoit d'ailleurs d'étendre ses services à l'Europe l'an prochain, préparez-vous, va se pencher sur cette défaillance. Voilà, on n'arrête pas le progrès, mais il semblerait qu'il s'arrête parfois tout seul.
Merci beaucoup, c'était Sous les radars, signé Alice Moreno.
France Inter. 18-20.
Et la BO du Monde de Cyril Sauvageau, la BO du Monde à l'heure des bilans de fin d'année. On s'arrête ce soir, Cyril, sur celui qui s'est imposé comme l'artiste incontournable de 2025, le chanteur d'origine portoricaine Bad Bunny.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, François. Près de 20 milliards d'écoutes en streaming sur la seule plateforme Spotify. Bad Bunny a fait plus fort que Taylor Swift, The Weeknd et autres Billie Eilish en devenant cette année l'artiste le plus écouté au monde, tout genre confondu. L'aboutissement d'une irrésistible ascension en l'espace de quelques années pour ce jeune artiste de 31 ans. 2025 marque réellement un tournant. C'est l'année où Bad Bunny sera devenu une superstar globale. Performance d'autant plus remarquable que Benito Antonio Martinez Ocasio, de son vrai nom, chante uniquement en espagnol et pas en anglais. Or, jamais un artiste latino n'avait réuni un public aussi vaste. Et même si sa musique emprunte certains codes, certaines références à l'univers du hip-hop américain, l'influence de Porto Rico est majeure. Bad Bunny est devenu l'ambassadeur numéro 1 du reggaeton, ce mélange de reggae et de rap en espagnol, emblématique de cette île des Caraïbes.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta sala queda irme un día. Y ver por el cielo.
Ouais, là, c'est bien l'espagnol, hein. C'est pas du yaourt, on va le préciser. D'ailleurs, Cyril, 2025 aura aussi été synonyme de retour aux sources pour celui qui est aujourd'hui le plus célèbre des portoricains.
Oui, retour aux sources d'abord parce que son sixième album, Debí Tirar Más Fotos, paru au tout début d'année, a été conçu comme un hommage à son île natale dont il recycle et reprend avec beaucoup de talent les styles musicaux traditionnels avec de la guitare acoustique, des trompettes et autres percussions. Et puis, Bad Bunny a aussi voulu rendre à son son pays ce qu'il lui doit, en marquant le coup avec une série de concerts qui ont fait beaucoup parler. Juillet dernier, début d'une résidence de Bad Bunny à Porto Rico, une trentaine de concerts à domicile célébrant l'identité et la culture portoricaine, un événement majeur qui va booster le PIB local, rapporter 400 millions de dollars. La sincérité de la démarche et la fidélité du chanteur à son île vont encore renforcer son crédit auprès de la population dans ce territoire au statut bien particulier, associé aux États-Unis, oui. Sans être à proprement parler un État américain. Bad Bunny devient en quelque sorte un symbole de résistance au nouvel impérialisme de la Maison Blanche.
Et pendant ce temps, aux États-Unis, Bad Bunny peaufine son image d'opposant au trumpisme.
Mais déjà pendant la campagne de 2024, face aux insultes de Trump contre Porto Rico, Bad Bunny avait pris la parole en soutien à Kamala Harris. Depuis la victoire de Donald Trump, le chanteur assume son rôle de porte-parole des Latinos, première victime de la politique migratoire de l'administration. Bad Bunny a carrément décidé de ne pas se produire sur le sol américain pendant sa tournée mondiale. Pourquoi ? Parce qu'il redoute que ses fans se retrouvent eux-mêmes victimes des rafles de l'ICE, la police anti-immigration, en marge de ses concerts. Et Donald Trump a beau dire qu'il ne sait pas qui est Bad Bunny, les MAGA ne décolèrent pas contre ce chanteur accusé de défendre les criminels et de ne même pas s'exprimer en anglais. La polémique n'est pas terminée. En 2026, Bad Bunny aura l'honneur d'être le premier artiste latino à assurer le concert de la mi-temps du Super Bowl, wow. La finale du championnat de foot américain. Et oui, mais cette invitation, eh bien, elle est loin de faire l'unanimité.
Ah, ça c'est Café Con Ron. Je ne vais pas traduire. Merci Cyril Sauvageau, la BO du monde tous les lundis. La suite du 18-20, la deuxième heure après le journal de 19h de Sarah Mansoura. Le téléphone sonne. Bonsoir Cécile Bidot.
Bonsoir.
Rédactrice en chef du 18-20. Ce soir, le TGV laisse-t-il des Français à quai ?
Alors si vous avez la carte de France en tête, pour aller de Lyon à Bordeaux, ça ne passe pas franchement par l'Île-de-France. Mm-hmm. Et pourtant, la future ligne de TGV va snober le Massif central. Cette décision, elle désespère les habitants et les élus locaux de ces territoires qui se sentent mis à l'écart. Myriam nous a déjà appelé de Lyon pour nous dire qu'elle mettait 9 heures pour se rendre à Brest en train. Cyril, sur l'application Radio France, nous écrit « La SNCF n'est plus un service public. Le but premier est de faire de l'argent. Stop au SNCF bashing », nous dit à l'inverse Jean. Le ton est donné. On va débattre à grande vitesse ce soir dans le téléphone sonne.
01 45 24 7000. Merci Cécile.